Père Philippe, théologie mystique, le sacerdoce du Christ, le 12 décembre 86, Rimont.
Qui était immolé, était dans les salles d'attente de la sacristie. Ça faisait quand même pas mal de bruit, ça. Et c'est quelque chose de majestueux, d'extraordinaire, de grand. Là, il y a un réalisme extraordinaire. La liturgie chrétienne, elle est tout autre, parce que elle présuppose la contemplation. Et alors, parce qu'elle présuppose la contemplation, elle est purifiée par la contemplation. Elle est dépouillée par la contemplation. Elle n'est plus ce qu'il y a de premier dans l'attitude sacerdotale. Le prêtre n'est pas premièrement celui qui officie des offices solennels. Il est premièrement lié à la contemplation du Fils bien-aimé du Père. Et l'Eucharistie va exprimer ça d'une manière admirable, puisque l'Eucharistie nous donne le corps du Christ, et que le mystère de l'Eucharistie nous donne le corps du Christ, nous donne en même temps l'âme du Christ. L'âme du Christ, c'est sa contemplation. Le corps du Christ, c'est sa liturgie. Alors c'est vrai, on est lié à la liturgie eucharistique, mais la liturgie eucharistique est silencieuse, puisque c'est le prêtre qui lui-même s'offre. Il porte en lui tous les taureaux, et il s'offre, et c'est lui-même qui s'offre, et il s'offre dans le silence de l'amour. Alors, puisque le sacerdoce implique cet aspect du sacrifice, le sacrifice réclame toujours l'offrande de nous-mêmes. Il se réalise dans la lutte pour nous, lutte interne, lutte externe. Et ce chapitre 8 nous montre le sommet de la lutte externe au niveau de la parole. Parce que le sommet de la lutte, c'est la croix, au niveau de l'action et du geste. Tandis que c'est vraiment la parole. Et le sommet de cette action, il faut bien le comprendre, c'est Jésus, grand prêtre, qui opère le discernement entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Votre père, c'est Satan. Autrement dit, Jésus, d'une manière prophétique, un discernement prophétique, c'est un discernement de la lumière d'éternité sur la confusion dans laquelle se trouvent ceux qui sont là pour accomplir religieusement la liturgie. Ils sont là à Jérusalem pour accomplir leur devoir d'hommes religieux. Et Jésus ne leur reproche rien là-dessus. Ils le font bien. Il y a quelque chose de plus profond qu'ils ne voient pas. On pourrait dire un inconscient religieux. Alors là, il y a un véritable inconscient, qui n'est pas le refoulement, qui est un manque de lucidité, qui fait que nous, qui ne vont pas assez loin dans leur engagement. Vous voyez, on aime, il faut bien le dire, on aime de garder dans le fond de son cœur une indétermination qui nous permettra au dernier moment de prendre une porte de sortie dignement. On a très peur de s'engager radicalement et fondamentalement. Très très peur. Surtout aujourd'hui, avec le brouillard psychologique. On a très très peur. Et non seulement on a très peur, mais on favorise cette peur. On favorise cette indétermination. On considère qu'on état intelligent si on ne se détermine pas. On est dans la recherche. Alors, dans l'ordre pratique, c'est qu'on a peur de s'engager. Et alors, on reste indéterminé. Je crois que c'est ça que Jésus condamne dans son regard.
Vérité et l'accomplissement.
Ça, je crois que pour nous, c'est là où le Saint-Esprit nous attend. Dira, je suis sincère, je peux pas aller plus loin. Est-ce que c'est vous qui vous pouvez déterminer ou est-ce que c'est Saint-Esprit qui vous détermine en vous? Quand vous êtes sincère, c'est vous qui vous pouvez déterminer. Donc les païens font de même. Il y a des païens sincères et qui sont quelquefois beaucoup plus sincères que des hommes totalement donnés au Christ. Ils sont sincères. C'est très très bien. Un stoïcien est sincère dans la recherche de la vérité. Mais c'est pas la sincérité. Jésus ne vient pas rendre témoignage à la sincérité. Il vient rendre témoignage à la vérité. La vérité est autre chose. C'est un dépassement. Un dépassement complet. Si j'étais sincère, constamment, je ne pourrais pas, je ne sais pas quoi me lever. À l'heure qui est demandé, ou me coucher à l'heure qui est demandé, si j'étais sincère avec moi-même, si c'était le seul but de ma vie d'être sincère, je coucherais toujours à droite ou à gauche. La sincérité me fait le coucher à droite ou à gauche. Peut-être qu'il y a une maison plus adéquate que celle-ci, où je serais mieux. Il y aurait un chauffage un peu plus fort les jours de froid, et je serais mieux. Alors, on louche. La sincérité permet de loucher. Elle laisse une porte d'entrée. La vérité, non. Est, est, non, non. Avec la sincérité, peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est la sincérité. Et la sincérité nous fait perdre du temps. Parce que tant qu'on reste dans la sincérité, on n'est pas dans la vérité, donc on ne contemple pas. C'est peut-être un sommet au niveau religieux, je dis peut-être, parce que je crois pas que la vertu de religion permet la sincérité. Sûrement pas la vertu de religion transformée par la foi et transformée par la charité, sous l'influence du don de piété. Mais on comprend comment les vertus morales peuvent encore permettre certains aspects comme ça. La prudence peut encore permettre cela. Vous voyez, on stade le bout. Aujourd'hui, oui, demain, non. Il y a du brouillard, comme vous. Le soleil ne se lève qu'à partir de telle heure ici. C'est pas drôle d'être dans le brouillard. J'aime mieux le soleil. Quand le soleil est là, tout est lumineux. Quand le brouillard est là, tout est vraiment dans la grisaille. Hein. Je comprends plus rien du tout. Alors, c'est ça, je crois, que Jésus fait, vous voyez. Il supprime cet inconscient fondamental qui ne doit pas exister chez le croyant. C'est très exigeant d'être croyant et d'être celui qui opte pour la contemplation. C'est-à-dire pour un don total de tout nous-mêmes à Dieu. C'est très exigeant, ça doit aller jusque-là. C'est Jésus qu'on choisit. Suivre l'agneau partout où il va. C'est déterminé de façon absolue. C'est inébranlable. Alors à ce moment-là, si on a à côté de soi des grands prêtres qui vous disent « crucifiez-le », on ne le fera pas. On dira « non, non, non ». Ma voix intérieure m'empêche. Nicodème n'a pas crié « crucifiez-le ». Parce qu'il était déterminé. Alors que ce bon peuple qui était là, qui était sans doute très pieux, il mettait des petits cierges à Saint-Antoine. Ça sûrement. C'est très très pieux. Quand il entend crucifiez-le, il se met à crier crucifiez-le. Et on est tous capables de ça si on reste au niveau de la sincérité. Je crois qu'on peut interpréter comme ça parce que ce passage, pour moi, est très très grand. Il est très grand. Et on l'a lu rapidement. Relisez-le dans cette lumière. Jésus fait le discernement entre la paternité du démon et sa paternité. Tant qu'on n'a pas opté pour la paternité du Christ sur nous, il y a toujours un peu de brouillard dans le front. Un peu de brouillard. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit se jeter tout de suite et déterminer tout de suite, non. Mais il ne faut pas maintenir climat d'indétermination. Parce que quand on maintient en soi un climat d'indétermination, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est la sincérité. C'est tout. On s'est donné à Dieu, on s'est donné à Dieu. Pour un an, pour 3 ans, pour toute la vie. Et on ne revient plus dessus. La tentation permanente, c'est ça, c'est de revenir dessus. Je vois quelqu'un, ça m'était dit récemment, et ça m'a beaucoup frappé, quelqu'un que je connais bien, qui à un moment donné a fait un acte héroïque. Vraiment, par rapport à pas directement son entrée en religion, mais par rapport à sa vie. Alors, 3 ans après de cet acte-là, cette personne me dit « Oh, j'étais complètement aveugle quand j'ai fait ça. » Alors, je lui dis « Vous regrettez ?»« Ah, pas du tout, j'étais aveugle par le Saint-Esprit. » Je dis « Ah bon, très bien. » Et c'est vrai. On est aveugle, c'est ce que je dis, quand on dit qu'on a des écailles sur les yeux. Quand le Saint-Esprit nous fait faire une entrée en vie religieuse, il nous met des écailles sur les yeux. Parce que si vous voyez où vous entrez, vous diriez non, c'est bien évident. Et les écailles tombent. Et à ce moment-là, vous oubliez que vous avez dit oui au Saint-Esprit. Et vous croyez plus ce que vous voyez que ce que le Saint-Esprit vous avait dit. La sincérité qui rebondit. Quand on fait un acte sous la mouvance de l'Esprit Saint, on est dans la vérité, conforme à la volonté du Père. Dès qu'on regarde humainement, parce que les écailles tombent, on se dit oh, dans quel truc je me suis fourré. Et on pourra dire ça de toute chose. Allez trouver autre part, allez trouver dans toute communauté humaine. Religieuse. Dans toute communauté chrétienne, on pourra toujours trouver le vieil homme ou la vieille femme. Alors on la retrouvera. Et alors, si on regarde ça en premier lieu, on dit on s'est trompé. Et à ce moment-là, on dit crucifiez-le. Parce qu'on crucifie Jésus quand on n'est pas fidèle. Dans l'obscurité. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez écouter n'importe qui. Vous écoutez n'importe qui, vous pouvez écouter la voix des grands prêtres. Et alors, quand on écoute la voix des grands prêtres, on écoute ce qui n'est pas fait pour nous. Vous voyez bien dans quel sens, hein? Les grands prêtres étant ceux qui ici n'acceptent pas le dépassement de Jésus. peux pas lui parler. Mais on voit les conséquences du Sanhédrin à l'intérieur du peuple religieux. Puisque c'est la partie principale du Sanhédrin. Et donc, on retrouve les conséquences. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que j'arrive. Dans la lumière du Père, on découvre que Jésus est sorti du Père. La véritable filiation et la véritable paternité. C'est ça le mystère de la foi chrétienne. Vous voyez comme dépassement de ce que représente uniquement une sincérité religieuse. Car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Jésus ne cherche pas à séduire. De temps en temps, il fait des miracles pour qu'on s'arrête à lui. Mais ici, en plein milieu de la lutte, il regarde le Père. Et je crois que ça, c'est très important. Et il me semble, moi, personnellement, ça c'est une interprétation, il me semble personnellement que le peuple d'Israël, au moment où le Christ lui parle, ne vit plus assez de la foi d'Abraham et vit trop de l'application de la loi. Et ça, on le voit très nettement à propos du sabbat. C'est l'application. C'est ça que j'appelle la religiosité. Une application. C'est ça que j'appelle la sincérité. On a bonne conscience parce qu'on a appliqué la loi. Oui, comme des chrétiens qui disent on va à la messe le dimanche. Et qui se confessent une fois par an, du moins avant, maintenant même plus. Qui se confessaient une fois par an pour vous dire au confessionnal. Je n'ai rien fait de mal, mon père, je n'ai tué personne, j'ai assisté à la messe le dimanche, c'est tout. Tuer quelqu'un et assister à la messe, ne tuer personne, plus exactement. Ne tuer personne et assister à la messe le dimanche. Voilà, voilà la conscience du chrétien. Oui, l'application de la loi. Je crois que quand on en est là, la foi disparaît. Obéissance formaliste à la loi. Et en tuant ça, là qu'il écoute, à l'égard de lui-même. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi. Voilà, ça c'est aussi très important. La confiance est rompue. Si la confiance est rompue, s'il n'y a plus de confiance, il ne peut plus y avoir cette réceptivité à l'égard de la parole de Jésus. Vous avez, vous, le diable pour père. Voilà. Jésus dénonce le ver dans le fruit. Ils sont là. Ils sont religieux. Ils ont une attitude religieuse. Il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas qu'ils ont déjà le diable.
Les partis politiques.
et on se retrouvera toujours en se tenant la main, sans chercher la vérité. Petit à petit, ce sont des bornes qui conduisent des bornes, et puis qui se précipitent. Est-ce que c'est ça? Faire part, vous voyez, mettre le primat sur le parti politique, c'est accepter d'être borgne. Celui-là était homme ici dès le commencement, ça va loin. La sincérité conduit à l'homicide. Vous avez vous le diable pour père et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. Celui-là était homme ici dès le commencement et ne s'est pas tenu dans la vérité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il a fait une chute dans la sincérité. Le premier grand sincère, c'est le diable. C'est le modèle de toute la sincérité. Parce que c'est l'orgueil qui le mène. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Mais c'est du côté de la vérité que Jésus regarde le démon. C'est extraordinaire, ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment le discernement du sacerdoce du Christ. Il est le sauveur et il veut sauver l'homme dans son esprit, dans son intelligence. Attention à ce grand.
Forestier, le grand scout éternel avec le père ton cœur, n'est-ce pas?
Silver Forestier, ces grands, grands disciples du Père Donker, grands, grands amis du Père Donker, et qui étaient vraiment entièrement donnés au scoutisme dans le bon sens, si vous voulez. Ça nous faisait toujours un peu sourire. Et alors à ce moment-là, quand j'étais à côté de lui, je reçois un coup de pouce comme ça, il était prieur du Saujoie, et je lui permis, donc j'étais juste à côté de lui. J'ai reçu ce coup de poing dans la poitrine. J'ai vu ce que c'était, il y avait le geste et la parole, vous voyez. Et j'ai compris ce que c'était que la sincérité. Fidèle à son idée. Fidèle à ce que je pense. Fidèle à mon opinion. Fidèle à ce qui me semble être la vérité. Oh, vous ne me délogerez pas, je serai toujours fidèle jusque-là. Et dans la vie apostolique, je vois très bien ce qu'il faut faire. Et personne d'autre ne pourra me dire qu'il faut faire autrement. Ça va très loin, ça, vous savez, ça va très loin. Quand il dit le mensonge, il le dit de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Mais moi, c'est parce que je dis la vérité que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous me confondra à propos de péché? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Écouter les paroles de Dieu, c'est d'être dans la vérité. Parce que écouter la parole de Dieu, c'est pas suivre mes idées. C'est écouter les paroles de Dieu. Voilà pourquoi vous ne m'écoutez pas. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Celui qui est rempli de soi et de ses propres idées, il n'y a plus de place pour la parole de Dieu. Celui qui ne veut que la sincérité, il n'y a plus de place pour la vérité. C'est montré là, d'une façon très très forte. Comment il faut creuser en nous, tout le temps. C'est le propre du mystère de la foi, de créer en nous une petitesse qui nous maintient avec une soif d'adhérer pleinement à la volonté du Père. Les Juifs répondirent et lui dirent: n'avons-nous pas raison, nous? Encore une fois, oui, subjectivité transcendantale. De dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon. On va jusqu'à dire que celui qui est témoin de la vérité, qu'il a un démon. Parce qu'on reste enfermé dans son opinion, dans sa sincérité. Jésus répondit: moi, je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père. Vous voyez, comme le dialogue est d'une rigueur, hein, et dans une force, puisque ça touche la chose fondamentale. Jésus a été jusque-là dans sa lutte vis-à-vis des pharisiens. Moi, je n'ai pas un démon. Et là, Jésus répond directement: moi, je n'ai pas un démon. Un démon, c'est suivre l'orgueil. C'est ça. C'est l'esprit du démon, c'est l'orgueil. L'esprit du démon, c'est la vanité. L'esprit du démon, c'est la convoitise. Donc, la jouissance. Lui en premier. Moi, je n'ai pas un démon. Mais j'honore mon Père. Et vous me déshonorez. Il déshonore Jésus parce qu'il n'accepte pas sa parole. Il la rejette et il l'accuse d'être démoniaque, d'être sous l'influence du démon. Pour moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y a quelqu'un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, voyez, l'orgueil et la vaine gloire, chercher sa propre gloire. Et au fond, la troisième, c'est la recherche du plaisir, de la jouissance, à tout. en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, maintenant nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne voudra jamais la mort. Voyez là le positivisme qui s'introduit dans la foi. Je crois que c'est exactement ça. C'est le positivisme qui s'introduit dans la foi. Alors, on n'accepte plus la parole du Christ qu'en référence aux faits. Les faits, c'est qu'Abraham est mort. Mais Jésus ne parle pas de cette mort. Il parle d'une autre mort. Et si ils étaient parfaitement croyants, ils comprendraient que la véritable mort, c'est le péché. Le véritable esclavage, c'est le péché. Mais ils se laissent prendre, voyez, la subjectivité transcendantale conduit au positivisme. On voit bien cette lutte, elle est très très éclairante pour nous. Vous pouvez comprendre comment il y a une espèce de dialectique dans le mal. Si la foi n'est pas première, c'est vous qui mesurez la foi d'une manière ou d'une autre, par vos méthodes, par vos convictions a priori. Si vous mesurez la foi, vous tombez dans le positivisme. Le positivisme le plus secret, c'est de se faire soi-même mesure de la réalité. C'est au cœur du positivisme. La subjectivité transcendantale conduit au positivisme. Il n'y a que le respect de l'autre qui nous sauve du positivisme. Le respect de l'autre et de ce que l'autre dit. Donc d'écouter la parole, ce qu'est la foi. Abraham est mort et nous, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne coûtera jamais la mort. Serais-tu plus grand, toi, que notre père Abraham, qui est mort? Ce qui est bon, c'est qu'ils disent la vérité en disant ça. Je suis plus grand qu'Abraham. T'es sûr? Mais dans leur perspective, personne ne peut être plus grand qu'Abraham. Mais Abraham, la grandeur d'Abraham, c'est quoi? C'est la foi. Il regarde Abraham dans un regard tout à fait différent. Ce n'est pas la foi d'Abraham qu'il regarde. C'était la foi d'Abraham qu'il regarderait, mais il se réveillerait à cette foi. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si c'est moi qui me glorifie, moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui aussi, lui dont vous dites, c'est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas tandis que moi je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Et la paternité jusqu'au bout. C'est merveilleux pour le traité de la très sainte Trinité. Et le lien entre la très sainte Trinité et le mystère d'incarnation. Et le mystère de la paternité dans tout l'enseignement du Christ pour comprendre ce que c'est que la vérité. La vérité, elle remonte jusque-là. Et elle doit remonter jusque-là, à sa source. Et Jésus montre bien que c'est cela qui fait la différence entre les deux. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour à moi. Et il l'a vu. Il s'est réjoui. Voyez le regard différent sur Abraham de Jésus et des autres. Différent. Le regard sur la paternité d'Abraham et le regard sur la fausse paternité d'Abraham. Je dis, c'est le leitmotiv, c'est la paternité, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est un sommet au point de vue de ce que représente le point de vue de l'enseignement de Jésus. Et c'est dans la lutte, et c'est le regard du sacerdoce du Christ par rapport justement.